Chapitre 50. Dickey voyait un thérapeute 3 fois par semaine. Ifemelu l'appelait tous les 2 jours. Il parlait parfois de ses séances ou n'en parlait pas, mais il voulait toujours l'entendre raconter sa nouvelle vie. Elle lui décrivait son appartement, lui disait qu'elle avait un chauffeur qui l'emmenait au bureau, qu'elle voyait ses anciens amis et qu'elle aimait conduire sa voiture le dimanche parce que les routes étaient désertes. Lagos devenait une ville plus aimable et les gens dans leurs atours colorés du dimanche ressemblaient, de loin, à des fleurs dans le vent. Elle lui dit « Tu aimerais Lagos, je crois. » Et il répondit avec un enthousiasme qui la surprit « Est-ce que je pourrais venir te voir, Coz ?» Au début, tante Uju se montra récalcitrante. « Lagos ? La ville est-elle sûre ? Tu sais ce qu'il a traversé, je ne crois pas qu'il pourra le supporter. » Mais c'est lui qui a demandé à venir, tante. Il l'a demandé? Mais depuis quand sait-il ce qui est bon pour lui? N'est-ce pas lui qui a voulu me priver d'enfant? Tante Uju acheta quand même un billet d'avion pour Dickey, et ils étaient là, tous les 2 dans sa voiture, avançant au pas dans les embouteillages d'eau chaude, Dickey le nez collé à la vitre, les yeux écarquillés. Oh mon Dieu, Coz! Je n'ai jamais vu autant de noirs dans un même endroit, dit-il. Ils s'arrêtèrent dans un fast-food où il commanda un hamburger. Est-ce que c'est de la viande de cheval, Coz? Parce que ce n'est pas un hamburger. Par la suite, il ne voudrait manger que du riz jollof et des plantains. Son arrivée lui parut de bon augure, 1 jour après qu'elle avait ouvert son blog et 1 semaine après avoir démissionné. Tante Onenou ne parut pas surprise et n'essaya pas de la persuader de rester. « Venez m'embrasser, ma chère !» se contenta-t-elle de dire, avec un sourire absent, au grand dépit d'Ifemelu. Mais elle était pleine d'espérance pour les petites rédemptions de Lagos, dont la bannière d'accueil montrait une photo romantique d'une maison coloniale abandonnée. Son premier poste fut une courte interview de Prié avec des photos des mariages qu'elle avait organisés. Ifemelu trouvait la plupart des décors prétentieux et outrés, mais l'article suscita des commentaires enthousiastes. « Décoration fantastique, Madame Prié. J'espère que vous ferez celle de mon mariage. Superbe travail, continuez !» Zemaye avait écrit, sous un pseudonyme, un article sur le langage du corps et le sexe. Peut-on dire si 2 personnes couchent ensemble juste en les regardant? Il donna lieu à beaucoup de commentaires. Mais c'est l'article d'Ifemelu sur le Nigerpolitan Club qui en provoqua le plus. Lagos n'a jamais été, ne sera jamais, et n'a jamais aspiré à être semblable à New York, ni en fait à n'importe quelle autre ville. Lagos a toujours été indéfectiblement elle-même. Pourtant, jamais vous ne vous en douteriez en assistant à une réunion du Nigerpolitan Club. Un groupe de jeunes retour au pays qui se retrouvent chaque semaine pour se lamenter que Lagos ne soit pas, par bien des points, comparable à New York, comme si Lagos avait jamais ressemblé, même de loin, à New York. Une confession, j'en fais partie. Pour la plupart, nous sommes rentrés pour faire fortune au Nigeria, créer une entreprise, passer des contrats avec le gouvernement et nouer des contacts. D'autres sont venus avec des rêves plein leurs poches et le désir de changer le pays. Mais nous ne cessons de nous plaindre du Nigeria et, même si ces critiques sont fondées, je peux imaginer que, étrangère au groupe, je dirais, repartez d'où vous venez. Si votre cuisinier ne prépare pas de panini parfait, ce n'est pas parce qu'il est stupide. C'est parce que le Nigeria n'est pas une nation de mangeurs de sandwich et que son dernier oga ne mangeait pas de pain l'après-midi. Alors il a besoin d'être formé et de s'exercer. Et le Nigeria n'est pas une nation de gens allergiques à certains aliments, pas une nation de gens difficiles pour lesquels la nourriture rime avec différenciation et séparation. C'est une nation de gens qui mangent du bœuf, du poulet, de la peau de vache, des intestins et du poisson séché mélangés dans un même bol de soupe, ce qu'on appelle un assortiment. Alors reprenez vos esprits et comprenez que la vie qu'on mène ici est juste cela. Un assortiment. Le premier commentateur écrivit « Foutaise ». Qui cela peut-il intéresser? Le deuxième écrivit: Dieu merci, quelqu'un aborde enfin ce sujet. Nawa pour l'arrogance des retours au pays nigérian. Ma cousine est rentrée après 6 ans en Amérique, et l'autre jour, elle m'a accompagnée à la maternelle à Unilag, où je déposais ma nièce. Près de la porte d'entrée, elle a vu des étudiants qui faisaient la queue en attendant l'autobus et elle a dit « Waouh, les gens font vraiment la queue ici ». Un autre lecteur de la première heure écrivit « Pourquoi les Nigérians qui font des études à l'étranger devraient-ils avoir le choix de l'endroit où ils feront leur service national ? Les Nigérians qui font leurs études au Nigeria sont affectés de manière aléatoire. Aussi, pourquoi ceux qui font leurs études à l'étranger ne seraient-ils pas affectés de la même manière ?» Ce commentaire déclencha plus de réponses que l'article original. Le 6e jour, le blog avait enregistré 1 000 visiteurs. Ifemelu modérait les commentaires, éliminant tout ce qui était obscène, se délectant de la vivacité de ses échanges, heureuse d'être l'avant-garde agissante d'une expérience dynamique. Elle écrivit un long post sur le style de vie de certaines jeunes femmes de Lagos, et le lendemain, Rani Nudo l'appela au téléphone, furieuse, la respiration haletante.
« Ifem, comment peux-tu faire ce genre de choses? N'importe qui me connaissant saura qu'il s'agit de moi !»«
Ce n'est pas vrai, Rani. Ton histoire est tellement classique. »«
Que veux-tu dire? C'est visiblement moi. Écoute ça !»
Rani Nudo fit une pause puis se mit à lire.
« Beaucoup de jeunes femmes à Lagos disposent de sources inconnues de revenus. » Elles mènent une existence qu'elles n'ont pas les moyens de s'offrir. Elles ne vont en Europe qu'en business class, mais ont des jobs qui ne leur permettraient même pas de s'offrir un billet en écho. L'une d'elles est mon amie, belle et brillante, qui travaille dans la publicité. Elle vit sur l'île et sort avec un banquier important. Je crains qu'elle finisse comme beaucoup de femmes à Lagos qui déterminent leur vie en fonction d'hommes qu'elles ne pourront jamais réellement avoir, entravées par leur culture de la dépendance, du désespoir dans le regard et des sacs de grands couturiers aux poignets.
Rani, sincèrement, personne ne saura que c'est toi. Tous les commentaires que j'ai eus jusqu'à présent viennent de femmes qui disent se reconnaître dans ce portrait. Tant de femmes se perdent dans des relations de ce genre. C'est tante Uju avec le général que j'avais réellement à l'esprit. Cette relation l'a détruite. Elle est devenue une autre personne à cause du général, sans pouvoir rien faire pour elle-même, et quand il est mort, elle ne savait plus qui elle était.
Qui es-tu pour en juger? Quelle différence y a-t-il avec toi et ton riche blanc en Amérique? Aurais-tu aujourd'hui la citoyenneté américaine sans lui? Comment as-tu pu travailler en Amérique? Arrête tes stupidités, arrête de te sentir tellement supérieur.
Rani Nudo lui raccrocha au nez. Pendant un long moment, Ifemelu contempla le téléphone silencieux, bouleversée. Puis elle retira l'article de son blog et se rendit chez Rani Nudo.
Rani, je regrette. S'il te plaît, ne sois pas fâchée, dit-elle.
Rani Nudo lui jeta un long regard.
Tu as raison, dit Ifemelu.
C'est facile de porter des jugements.
Mais il n'y avait rien de personnel, aucune mauvaise intention. Je t'en prie, Biko.
Je n'envahirai plus jamais ta vie privée à l'avenir. Rani Nudo secoua la tête.
Ifemelu Nama, tu souffres de frustration émotionnelle. Va retrouver Obinze, je t'en prie.
Ifemelu éclata de rire. C'était la chose qu'elle s'attendait le moins à entendre.
Il faut d'abord que je maigrisse, dit-elle.
Tu as simplement peur.
Avant qu'Ifemelu s'en aille, elle s'assit sur le canapé et bure du lait malté, regardant les dernières nouvelles des célébrités sur i. Dike proposa d'être modérateur des commentaires du blog pour lui permettre de souffler.
Seigneur Koz, ces gens prennent vraiment tout ce fratras personnellement,
dit-il. Il lui arrivait de rire tout seul en lisant un commentaire, où il lui demandait la signification d'expressions qui ne lui étaient pas familières. Que veut dire attention les yeux? Lorsque l'électricité tomba en panne peu après son arrivée, les vrombissements, sifflements, bourdonnements de son onduleur l'effrayèrent.
« Oh mon Dieu, c'est une alarme à incendie ? »
demanda-t-il. « Non, c'est simplement un système qui empêche mon poste de télévision d'être détruit par ces infernales coupures. »
« C'est dingue !» dit Dickey. Mais quelques jours plus tard, il mit lui-même l'ondulateur en marche à l'autre bout de l'appartement quand l'électricité fut coupée. Raninudo lui présenta ses cousines, des filles de son âge, jeans moulants épousant leurs hanches minces, seins naissants que révélait leur t-shirt étroit.
Dickey, tu dois en épouser une, oh ?
Dit Raninudo.
Nous avons besoin d'avoir de beaux enfants dans la famille.
Rani !
Protestèrent les cousines, confuses, dissimulant leur timidité. Dickey leur plaisait. C'était si facile de l'aimer avec son charme, son humour et sa vulnérabilité sous-jacente. Il mit sur Facebook une photo qu'Ifemelu avait prise de lui dans la véranda avec les cousines de Raninudo. Et il inscrivit comme légende « Ces lionnes-là ne sont pas prêts de me manger, les amis. »
« J'aimerais parler Igbo, »
lui dit-il à la suite d'une soirée passée avec ses parents. « Mais tu le comprends parfaitement. »«
J'aimerais le parler. »
« Tu peux encore apprendre ?» dit-elle, soudain saisie d'angoisse, incertaine de l'importance que cela avait pour lui, repensant à lui étendu sur le canapé du sous-sol, trempé de sueur. Elle se demanda si elle devait en dire plus.
« Oui, sans doute, »
dit-il et il haussa les épaules, comme pour signifier que c'était déjà trop tard. Quelques jours avant de partir, il demanda
« À quoi ressemblait vraiment mon père ?»«
Il t'aimait. »
Tu le trouvais sympathique ?
Elle ne voulait pas lui mentir.
Je ne sais pas. C'est un personnage haut placé dans un gouvernement militaire. Ça compte dans la manière dont tu perçois les gens.
Je m'inquiétais pour ta mère car j'estimais qu'elle méritait mieux. Mais elle l'aimait. Elle l'aimait vraiment. Et il t'aimait. Il te prenait dans ses bras avec une telle tendresse.
Je n'arrive pas à croire que maman m'ait caché si longtemps qu'elle était sa maîtresse.
Elle voulait te protéger. Dit Ifemelu.
Pouvons-nous aller voir la maison de Dolphin Estate ?
Si tu veux. Elle le conduisit à Dolphin Estate, étonnée de voir à quel point tout s'était détérioré. La peinture s'écaillait, les rues étaient pleines de nids de poules, et toute la résidence paraissait se résigner à sa décrépitude.
C'était tellement plus joli avant, lui dit-elle.
Il resta à contempler la maison un moment, jusqu'à ce que le gardien leur demande.
Un problème.
Et ils regagnèrent la voiture.
Est-ce que je peux conduire, Coz ?
Demanda-t-il.
Tu es sûr ?
Il hocha la tête. Elle quitta la place du conducteur et fit le tour de la voiture pour prendre la sienne. Il conduisit jusqu'à la maison, hésitant un peu avant de s'engager dans Osborne Road, puis se mêlant à la circulation avec plus d'assurance. Elle savait que cela signifiait quelque chose pour lui qu'elle ne pouvait nommer. Ce soir-là, quand le courant s'interrompit, son générateur ne voulut pas démarrer et elle craignit qu'on ait vendu à son chauffeur Ayo du fioul coupé de kérosène. Elle ouvrit les fenêtres, lui fit enlever sa chemise et ils restèrent allongés côte à côte sur le lit à parler de tout et de rien. Elle tendit le bras et toucha son front, y laissant sa main posée jusqu'à ce qu'elle entende la respiration régulière de son sommeil. Le lendemain matin, le ciel était couvert de nuages gris ardoises, l'air lourd de menaces de pluie. Près de la maison, des oiseaux piaillèrent et s'envolèrent. La pluie s'annonçait. Un océan se déverserait du ciel et les images de la télévision allaient devenir granuleuses. Les réseaux téléphoniques s'encombraient. Les rues seraient inondées et la circulation s'étranglerait. Elle se tenait avec Dickey dans la véranda quand les premières gouttes tombèrent.
Ça me plaît plutôt d'être ici.
Lui dit-il. Elle eut envie de dire « Tu peux vivre avec moi, il y a de bonnes écoles privées auxquelles tu pourrais t'inscrire. » Mais elle n'en fit rien. Elle le conduisit à l'aéroport et resta à le regarder jusqu'à ce qu'il passe devant la police, lui fasse un geste de la main et continue son chemin. Rentrée chez elle, elle écouta ses pas résonner dans le vide tandis qu'elle passait de sa chambre au salon, puis à la véranda et faisait ensuite le chemin inverse. Plus tard, Raninudo lui dit
« Je ne comprends pas comment un garçon aussi bien que Dickey a pu vouloir se tuer. Un garçon qui vit en Amérique et qui a tout ? Comment est-ce possible ? C'est typique du comportement des étrangers. »
« Des étrangers ? Qu'est-ce que tu racontes ? Est-ce que tu as lu « Le monde s'effondre » ? » demanda Ifemelu,
regrettant d'avoir parlé de Dike à Raninudo. Elle lui en voulait comme jamais. Pourtant, elle savait que Raninudo était pleine de bonnes intentions et avait dit ce que beaucoup de Nigérians auraient dit. C'était d'ailleurs pour cela qu'elle n'avait parlé de la tentative de suicide de Dike à personne d'autre depuis son retour.